Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui, je pense, nous concerne tous. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger demain?
Bonjour. C'est une excellente question et elle est plus complexe qu'il n'y paraît.
Oui, et pour y voir plus clair, on a une source vraiment passionnante, une analyse prospective des artisans gourmands de Nouvelle-Aquitaine qui dessine un peu les grandes tendances pour 2025.
C'est un document très riche, en effet.
Et ce qui est frappant dès le début, c'est le constat de départ. Manger aujourd'hui, c'est plus juste un besoin vital, quoi.
Non, plus du tout.
C'est devenu un vrai carrefour. On y met du bien-être, du plaisir, de la responsabilité envers soi, envers la planète. Notre mission aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer tout ça.
Oui, et ce que je trouve intéressant, c'est que le rapport montre que ce n'est pas tant une bataille entre ces concepts qu'une sorte de négociation permanente en nous.
Une négociation incarnée.
Ben oui, on veut le réconfort d'un plat d'enfance, mais en même temps, on veut qu'il soit bon pour la planète. Et qui coûte pas trop cher. Et si possible, qu'une appli nous dise que c'est le bon choix.
C'est ça. Ce qu'on mange, ça devient une affirmation de nos valeurs, mais de nos contradictions aussi.
Exactement. Et c'est cet équilibre un peu complexe entre trois grands piliers, le plaisir, la santé et la responsabilité, qui est vraiment la clé pour comprendre ce qui se passe dans nos assiettes. Alors, commençons par le premier pilier, le plus viscéral, je dirais, le plaisir. Il y a un chiffre dans le document qui m'a vraiment interpellé.
Lequel? L'importance du plaisir dans l'alimentation, elle est passée de 70% en 2022 à 75% en 2023, en un an. Ça peut sembler peu, mais en fait, c'est une hausse énorme.
Oui, c'est significatif.
Et le plus paradoxal, c'est qu'en pleine inflation, alors qu'on fait attention à tout, les ventes de ce qu'on appelle la comfort food, elles explosent littéralement.
Ah oui, les chiffres sont fous.
On parle de plus 14% pour les cookies, plus 15% pour les pâtes à tartiner, et attention! Plus 25% pour les chips. Comment on explique ça? Ça défie un peu la logique économique, non?
À première vue, oui. Mais si on creuse un peu, c'est pas vraiment un paradoxe. C'est une repriorisation de nos dépenses.
C'est-à-dire?
Bah, ce que ça nous dit, c'est que dans un contexte général un peu anxiogène, le réconfort, c'est plus un luxe. C'est devenu un besoin essentiel. Les gens coupent peut-être sur de grosses dépenses, les vacances, les sorties,
D'accord.
mais ils réallouent ce budget plaisir sur des petites choses, des choses accessibles immédiates. Un bon paquet de chips, une super pâte à tartiner, c'est un luxe abordable, quoi. Une récompense instantanée. L'alimentation devient un refuge.
Un refuge émotionnel.
C'est ça. Et ça va au-delà du goût. On cherche des textures, des expériences qui nous sortent du quotidien.
Et c'est là qu'intervient le concept de mood foods, ces aliments pour l'humeur que le document mentionne. L'idée d'utiliser, je sais pas, la citronnelle pour se calmer ou du piment dans le chocolat pour se réveiller, c'est sérieux, Fa, ou c'est juste du marketing?
Alors, c'est un peu des deux. Pour l'instant, ça reste une niche, mais c'est l'illustration parfaite de cette recherche. On cherche une alimentation qui fait plus que nourrir, une alimentation qui agit sur nous.
On passe du nutritionnel au psychosensoriel en quelque sorte.
La question n'est plus seulement est-ce que c'est bon pour ma santé, mais aussi est-ce que ça va me faire du bien au moral? Et ça, c'est une évolution assez profonde.
Et ce plaisir, on ne le cherche pas seulement en solo devant la télé, le rapport insiste beaucoup sur le partage. Près d'un tiers des consommateurs dans le monde lient le plaisir de manger à la convivialité.
Clairement, on le voit avec le succès des food courts, des grandes tables partagées dans les restaurants, on a besoin de se retrouver.
Et ce besoin de se retrouver, ça nous ramène vers les traditions.
Souvent, oui, c'est une quête d'authenticité, de transmission. C'est pas un hasard si les bistrots et les bouillons, avec leurs plats qui mijotent, font un retour en force. On redécouvre des produits que nos grands-parents connaissaient par cœur.
Comme le sarrasin, par exemple.
Le sarrasin, l'ail noir, les céréales anciennes. C'est drôle, ma grand-mère faisait des galettes de sarrasin et enfant, je trouvais ça terriblement vieillot.
Et maintenant?
Maintenant, je vois les mêmes galettes dans des brunchs parisiens à 18 euros. Ce qui était rustique est devenu chic.
Donc, on se tourne vers le passé pour se rassurer. On cherche les saveurs d'antan.
Oui, mais et c'est là que c'est intéressant. Ce retour aux racines ne veut pas dire qu'on se ferme. Au contraire,
Ah.
la source montre que dans le même temps, plus d'un tiers des gens cherchent activement de nouvelles saveurs. Il y a une curiosité incroyable pour les cuisines du monde.
Comme les cuisines coréennes ou africaines, c'est ça?
Oui, la cuisine coréenne, les cuisines africaines, les différentes cuisines méditerranéennes, elles montent en puissance. En fait, on veut le pot-au-feu de grand-mère le dimanche et un bibimbap le lundi. On veut être rassuré et surpris. C'est toute la complexité du mangeur de 2025. D'accord, donc on a ce premier pilier, plaisir, réconfort, découverte. Mais, comme vous le disiez, c'est que la moitié de l'histoire, n'est-ce pas ?
Loin de là. Parce que pendant qu'on hésite entre le cookie et le kimchi, il y a cette petite voix dans la tête qui nous parle de responsabilité.
La petite voix de la conscience.
Exactement. Pour notre corps et pour la planète. Comment cette pression s'intègre dans l'équation, surtout quand on vient de dire qu'on achète 25% de chips en plus.
C'est tout le nœud du problème. Et la grande nouveauté, c'est que ces deux aspects, la santé personnelle et la santé de la planète, sont maintenant dans la même case pour beaucoup de gens.
C'est lié. C'est devenu indissociable. L'idée s'est installée que ce qui est bon pour la planète est aussi bon pour nous. Le rapport le montre bien, 74% des consommateurs pensent que leur alimentation peut être un risque pour leur santé. Et ils ont déjà changé des choses. Et ça se traduit comment, concrètement ?
Par une exigence de transparence. On veut des listes d'ingrédients courtes, compréhensibles. Le fameux « clean label ». Et on veut savoir d'où viennent les produits. La traçabilité.
Et sur le plan environnemental, les attentes sont encore plus fortes. 63% des gens disent avoir des exigences plus élevées qu'il y a 2 ans.
Oui, les priorités sont claires.
Moins d'emballage, des produits à faible empreinte carbone, un soutien massif au commerce équitable. Le chiffre qui me semble le plus dingue, c'est que 40% des consommateurs affirment avoir fait un changement radical dans leur alimentation pour des raisons éthiques ou écologiques. C'est une révolution silencieuse.
En théorie, oui. C'est ce que les gens disent dans les enquêtes. Mais dans la pratique, il y a un énorme décalage.
C'est-à-dire ?
On achète la salade bio, mais elle est dans une boîte en plastique et elle a traversé la moitié de l'Europe. L'intention est là. L'idée a fusionné dans nos esprits, mais nos actions ont encore du mal à suivre. Surtout quand la praticité et le prix entrent en jeu.
Ah, le prix.
Et c'est là que l'inflation agit comme un gigantesque arbitre. Elle vient mettre nos belles convictions à l'épreuve du réel, quoi.
Le portefeuille a le dernier mot. En fait, très souvent. Le prix est redevenu le critère numéro 1. La source est très claire là-dessus. La viande est maintenant vue comme un produit de luxe par 61% des gens. C'est énorme. 61%.
Et quand on voit que 41% des consommateurs réduisent le gaspillage, leur motivation première, c'est pas l'écologie, c'est le budget.
On cherche des solutions alors.
Exactement. On assiste à l'émergence d'une nouvelle équation. Comment trouver de la nourriture saine pour moi, acceptable pour la planète et qui vide pas mon compte en banque? C'est ce casse-tête qui explique la progression du flexitarisme, qui atteint 44% d'après le rapport. Voilà. Pas seulement par pure conviction, mais parce que c'est une réponse pragmatique à cette double, voire triple contrainte. C'est un compromis. On a donc ce bras de fer permanent entre plaisir et conscience. Et au milieu, un troisième acteur vient tout changer, la technologie. Oui, elle n'est pas une tendance en soi. C'est un catalyseur. Elle transforme toutes les autres.
Elle accélère tout.
C'est ça. Elle redéfinit les règles du jeu, de la production à la consommation. Le changement le plus visible pour nous, c'est la livraison. Avec la pandémie, le télétravail, la commande en ligne est devenue banale.
C'est le homing dont parle le rapport. Un repas de restaurant sur 5 mangé à la maison.
Précisément. Mais ce qui est révélateur, c'est qu'une nouvelle exigence est apparue. La livraison verte. 60% des Français privilégient des options éco-responsables. On voit bien comment les tendances s'entremêlent. On veut le confort de la technologie, mais avec une conscience écologique.
Au-delà de la livraison, ce qui me frappe, c'est l'accès à l'information. On parlait de transparence tout à l'heure.
Le numérique la rend possible.
Clairement. D'après la source, 6 Français sur 10 font des recherches en ligne avant d'acheter un produit. Ça veut dire qu'on fait plus confiance à l'emballage, on a besoin d'une contre-expertise dans la poche.
Via le téléphone.
Le Nutri-Score, les QR codes.
Les essais marais.
Et maintenant ce nouveau label Origine Info qui va indiquer l'origine des 3 ingrédients principaux.
Exactement. Et les marques l'ont bien compris. Elles se contentent plus de fournir de l'info brute, elles essaient de créer un accompagnement personnalisé. Le but n'est plus seulement la transparence, c'est l'assistance.
On passe de l'information à la prescription.
C'est ça. Bientôt, l'application du supermarché vous proposera une recette en fonction de ce qu'il vous reste dans le frigo, tout en calculant l'impact carbone du plat.
Et ça nous amène à l'innovation la plus déroutante, je trouve, cette IA en Arabie Saoudite qui analyse l'état émotionnel pour suggérer un repas. Là, j'avoue, ça me semble un peu de la science-fiction.
C'est une excellente question.
C'est un peu dystopique, non ? Est-ce qu'on a vraiment envie qu'une machine nous dise quoi manger parce qu'on a l'air triste ? C'est vrai que ça peut faire peur. Pour l'instant, c'est une expérimentation, mais ça montre la direction. L'hyper-personnalisation, c'est l'aboutissement logique des mood foods, vu comme ça.
Et il ne faut pas oublier que cette technologie, elle est encore plus profonde en amont, dans les champs. L'agritech, les drones, l'agriculture verticale, les protéines alternatives, l'IA qui anticipe la demande pour réduire la surproduction. Tout ça est invisible pour nous, mais ça transforme l'agroalimentaire en profondeur.
D'accord. Alors, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, l'image qui se dessine pour 2025, c'est celle d'une alimentation qui est vraiment le miroir de notre société, en fait.
Totalement.
On y retrouve notre besoin de réconfort face à l'incertitude, notre désir de lien, mais aussi notre conscience écologique qui grandit et nos contraintes économiques qui se durcissent. Et la technologie qui vient mettre son grain de sel partout.
C'est ça. Et s'il fallait retenir un mot, je dirais convergence. La vraie nouveauté, c'est pas chaque tendance prise séparément. Manger sain ou local, c'est pas nouveau.
Non.
La rupture, c'est que le consommateur de 2025, il veut plus avoir à choisir. Il veut un produit qui soit à la fois réconfortant, bon pour sa santé, respectueux de l'environnement, transparent et facile à acheter.
Le Graal pour une marque, c'est de cocher toutes les cases.
Exactement. Le plaisir, la responsabilité et la personnalisation, ce ne sont plus des options concurrentes. Ce sont les trois faces d'une seule et même attente.
Et pour conclure, je reviens sur cette idée d'IA qui nous conseille nos repas. Le document la présente comme une innovation.
Oui.
Mais ça soulève une question vertigineuse pour la suite. Si une application peut choisir pour nous le plat parfait, pour nous réconforter, ou le menu le plus optimisé pour notre santé.
Et pour la planète.
Quelle est la prochaine étape? Est-ce que la technologie pourrait un jour comprendre nos goûts et nos besoins mieux que nous-mêmes?
C'est la grande question.
Et si c'est le cas, quelle place il restera pour le simple plaisir irrationnel? Pour le mauvais choix? Pour ce paquet de chips qu'on mange juste parce qu'on en a envie, même si c'est pas optimal? C'est une perspective à la fois fascinante et un peu troublante.